des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Et on est avec Luc Laliberté. Salut Luc.
Oui, bonjour Geneviève.
Bon, tu me parles de l'ancien stratège de Donald Trump.
Voilà, M. Bannon, écoute, qui, quand on parle des problèmes de désinformation de plus en plus hein, en politique, mais sur l'ensemble des sujets dans la société, M. Bannon est un de ces individus qui, avant qu'on l'associe à Donald Trump, est lié à la désinformation. Donc, il est carrément le parrain ou le créateur de certains sites de désinformation avoués. Donc, M. Bannon, il se cherchait, lui, avant 2016, quelqu'un avec qui il pourrait faire du chemin au plan politique, et il va s'associer à Donald Trump. Il va dire finalement, je pense que c'est cet individu-là qui déjà fréquente nos sites, qui s'abreuve d'informations sur nos sites, c'est avec lui que je pourrais travailler. Alors, M. Bannon va entrer à la Maison-Blanche comme stratège il va ensuite, comme c'est le cas de la plupart des gens qui se collent de trop près à Donald Trump, il va ensuite être mis temporairement sur une voie de garage, c'est-à-dire qu'on va l'écarter de la Maison-Blanche, il va perdre son poste et revenir dans l'actualité plus récente parce qu'on l'a associé, Steve Bannon, à une problématique de fraude. On l'avait condamné avant la fin de la présidence Trump. Donc, on l'avait condamné pour fraude. Il avait détourné des fonds récupérés pour encourager Donald Trump. Il avait détourné ces fonds-là sans dire aux donateurs qu'il allait utiliser l'argent pour financer une partie de la construction du fameux mur à la frontière avec le Mexique. Donc, il s'était retrouvé condamné à la prison. Donald Trump, dans les derniers moments de sa présidence, utilise un pouvoir qui est bien légitime, celui du président, d'accorder un pardon présidentiel. Steve Bannon lui doit donc sa remise en liberté, puis le fait, bien sûr, qu'il n'a pas à séjourner derrière les barreaux. Mais voilà que M. Bannon, il se rappelle à notre bon souvenir encore, parce qu'on le sait, il y a une commission à la Chambre des représentants aux États-Unis qui enquête sur les événements du 6 janvier. Cette fameuse attaque qu'il y a eu sur le Capitole, qui a été violente, qui a entraîné la mort d'un nombre quand même considérable d'individus, si on considère qu'on s'en prenait en plus au fondement de la démocratie américaine, ou à tout le moins, en tout cas, à l'endroit où les législateurs préparent les fameux projets de loi. On a demandé dans cette commission-là à faire témoigner Steve Bannon. On a dit comme stratège, il y a 4 proches de Donald Trump que les membres de la commission aimeraient bien entendre. Alors, on a dit, parmi les 4 qu'on souhaite entendre, il y a Steve Bannon. M. Trump est revenu dans l'actualité avec ça en disant, les 4 conseillers à qui on demande de témoigner dans ce dossier-là, moi, comme ancien président, je leur ordonne de ne pas se soumettre à la citation à comparaître.
OK, mais attends, excuse-moi, oui? Luc, est-ce qu'il y a autorité en la matière? Un ex-président ne peut pas retenir des affaires en qualité d'ex-président, là? Ça confère aucun pouvoir d'être ex-président?
Justement, c'est là où pour moi ça devient intéressant. Il y a tout le cirque Trump, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de poudre aux yeux là-dedans, beaucoup de mensonges et de désinformations, mais derrière ça, il y a quels sont les pouvoirs réels d'un président.
Ben, c'est ça.
Et, voilà. Et M. Trump et ses avocats ont toujours joué sur le fait que il y a un flou autour de l'étendue des pouvoirs du président américain, puis de la possibilité de poursuivre en justice un président américain pour des gestes commis dans l'exercice de ses fonctions. Le message que Donald Trump envoyait à Steve Bannon et aux 3 autres que le Congrès demande à rencontrer, la commission de la Chambre des représentants, il leur a dit « N'y allez pas. Moi, je vais traîner ceux qu'ils veulent devant les tribunaux pour dire, un, vous n'aurez pas la documentation si des documents de mon administration, si j'autorise pas qu'on vous remette ces documents-là, et deux, vous n'avez pas le droit de faire témoigner des gens qui m'obéissaient, qui étaient sous mon pouvoir ou sous ma direction. » Et il y a un flou autour de ça. Moi, je pense qu'on a le droit de demander à un président de le faire, puis il y a déjà des précédents, mais je répète, il reste un flou. Alors, on va se retrouver devant les tribunaux, fort probablement, autour de cette question-là. Maintenant, il faut que tout ça bouge assez vite. On est en 2021, on approche déjà, mine de rien, de la fin 2021. Il y a des élections en 2022 aux États-Unis. Donc, comme on sait que ces procédures-là traînent, ça se peut que ce soit plus une majorité démocrate à la Chambre des représentants, que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre. Que vont-ils faire avec cette fameuse commission? eux, ils ont l'air de nier ou de balayer sous le tapis l'importance que ça a eu le 6 janvier dans l'histoire des États-Unis. Donc, les démocrates, le président Biden, s'ils ont à bouger, doivent bouger très, très rapidement parce qu'on a tout lieu de croire que les républicains vont balayer ça sous le tapis.
Bon. On s'en va complètement ailleurs. Un sujet. Non, mais j'avais hâte de parler de ça avec toi, Luc, parce que je t'ai entendu. En fait, je t'ai lu, je pense que tu en as parlé aussi sur tes médias sociaux. De cette controverse, entre guillemets, controverse là, autour de la bisexualité du fils de Superman. Il y a plusieurs chroniqueurs cette semaine qui voulaient m'en parler, puis on en a parlé. Tout le monde n'est pas nécessairement à la même enseigne là, non, concernant cette histoire-là.
Écoute, j'imagine que ça dépend bien sûr parfois de nos orientations ou du point de vue déjà en partant qu'on peut avoir. Moi, je posais un regard là-dessus comme historien. Oui. Et je me suis amusé parce que j'aime bien lire Mathieu Bock-Côté. Ça arrive à l'occasion qu'on n'est pas dans la même équipe sur certains sujets et ça me convient parfaitement. Je sais qu'il va bien défendre son point de vue. Mathieu, lui, a pris ou a interprété le caractère, la bisexualité du fils de Superman comme, appelons ça, une autre attaque contre l'homme blanc et hétérosexuel qu'on critique, semble-t-il, de plus en plus.
C'est un étonnant point de vue venant de Mathieu Bock-Côté.
Ben c'est ça, écoute. Et moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Et le prof a même pris un peu le dessus dans mes réflexions en me disant, d'abord, Superman, là, ça a toujours été le champion de la diversité. Puis c'est ce que j'ai mis dans mon article. Donc, il a encouragé le respect des différences, que ce soit des origines, etc. Donc, c'est un immigrant lui-même, rappelons-le. Là, si on prend ça un peu au sérieux, c'est un immigrant, Superman. Donc, je me disais, c'est le champion historique de la diversité. Que le fils de Superman reconnaisse être bisexuel, je me disais, il s'est adapté le personnage au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps.
Mais il est de son époque.
Voilà, il a toujours été de son époque et il le demeure. Comme prof, moi, ce que je voyais comme message aussi, c'est, moi, j'ai remarqué une tendance en enseignement au sein de mes étudiants. Dans les 20-25 dernières années, j'ai remarqué que ceux qui ont une orientation sexuelle différente l'affichent de plus en plus, ou en tout cas vivent beaucoup mieux avec que c'était le cas auparavant. Et j'ai associé ça à la représentation qu'on fait des différentes orientations sexuelles. Ça peut être dans des romans, ça peut être à la télé, dans des séries télévisées. Je me disais, on s'habitue à voir des homosexuels, on s'est habitué à voir des trans, on s'est habitué à voir des bisexuels. J'ai pas considéré que c'était une attaque contre ma personne, ou j'ai pas senti qu'on me mettait, moi, homme blanc hétéro, de côté.
Oui, mais excuse-moi, je t'interromps pour te dire la chose suivante, c'est de dire, il y a une différence, parce que on est en train parfois de se dire, oh mon Dieu, ça y est, c'est l'hégémonie woke, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut faire une distinction entre, par exemple, si demain matin on se réveille et on fait, tout à coup, là, Superman, c'est plus Superman, c'est un homme noir, gay, tu sais, peu importe où qu'on prend, je sais pas moi, Batman déjà gay, je pense, avec Robin, là, c'est pas un bon exemple, mais tu sais qu'on...
Robin est bisexuel.
C'est ça, mais tu sais, c'est pas comme si on s'attaque à une icône puis qu'on se dit, bon, faut l'adapter au goût du jour puis complètement changer les affaires. C'est un nouveau personnage. C'est ça que je parlais avec Vincent Dessoureux aussi ce micro. C'est une nouvelle affaire, tu sais.
Oui, puis il y a autre chose aussi. C'est qu'assurer une meilleure représentation de l'ensemble des réalités d'une société, pour moi, c'est pas woke. C'est tout à fait légitime que des représentants des minorités disent, écoutez, si la télé ou le cinéma, ce n'est que blanc et hétéro, en quoi vous faites une représentation juste? Donc, qu'on fasse plus de place, pour moi, ça contribue même, en tout cas, j'ai remarqué chez mes étudiants, à l'acceptation. Et il y a un monde de différence. Par exemple, je prends ce cas-là en particulier, entre le jeune gay à qui j'ai enseigné il y a 25 ans, puis ceux que j'ai devant moi en 2021. C'est des sujets très, 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 très tristes et durs, mais j'ai déjà perdu un étudiant parce que, quand il fait, entre guillemets, son coming out, c'est très mal reçu. C'est dans sa famille, ça me concerne pas moi, mais le jeune est passé à l'acte, s'est enlevé la vie. Aujourd'hui, quand je vois deux compagnons, les deux chums s'embrasser avant de rentrer dans l'école, puis pour tous les autres...
Tu ne te sens pas menacé dans ton hétérosexualité d'homme blanc, Luc?
Absolument pas. Puis il semble que ma blonde n'ait pas vu de problème non plus.
Je voulais m'en assurer.
Donc, et on en met beaucoup sur les épaules des woke. Toutes les revendications pour les minorités ne sont pas woke. Moi, je défends comme historien, par exemple, le droit d'enseigner ce que je veux. Et dans certains, bien sûr, on prend toujours des précautions, mais d'utiliser des termes que certains tentent de proscrire aujourd'hui. Moi, je veux utiliser ces termes-là pour parler de réalité.
Tu fais du contexte, là. Tu fais des je dirais pas les deux
on ne cache pas le passé. Ah, oui. On peut s'adapter au présent aussi. Mais c'est là où je trouve que parfois les woke ont un peu le dos large. Il y a des abus de ce côté-là, puis j'aime pas ça. Mais en même temps, tout ce qui est revendication est pas woke. C'est ma limite à moi.
Ouais, puis j'ai envie de te dire aussi, là, pour avoir parlé de cette question-là, la liberté académique avec plusieurs profs, là, les profs qui ont eu temps soit plus réfléchis sur la question me disent vraiment tous la même affaire, puis tu viens un peu de dire la même chose, c'est de dire, tu sais, on s'empêche pas d'enseigner nos affaires. Moi, j'enseigne les mêmes livres qu'avant et tout ça. C'est juste que la façon de le faire est peut-être différente. Tu sais, on s'adapte, on écoute les étudiants. Pas les écouter, ça veut pas dire obtempérer, là. Tu sais, l'enseignement, c'est un dialogue, là. C'est pas juste.
Pour te donner une réalité, là, un petit exemple rapide et concret.
Ouais.
J'enseigne l'histoire de l'islam, là, partiellement, les débuts de l'islam dans un cours. J'ai une grande diversité d'étudiants devant moi, dont une jeune musulmane qui porte le voile. Je peux pas enseigner ça comme s'il n'y avait que des Blancs nés à Québec, là, du lac Saint-Jean, des Tremblay.
Mais t'as mis-tu à contribution dans ton cours?
Tout à fait. Et je lui ai tendu la perche au plan personnel individuellement en disant, si tu te sens à l'aise d'intervenir, tu le fais. Et sincèrement, c'était un de mes plus beaux moments en enseignement au plan pédagogique parce que la discussion était très ouverte avec l'ensemble du groupe. Mais c'est le fun. Si j'ai 25 à 30 % de mes étudiants qui sont des immigrantes, qui sont de confessions religieuses différentes et qu'on est capable d'en parler ouvertement en classe, moi je pense qu'un prof fait dans ce temps-là ce qui est payé pour faire.
Oui, puis je pense que la clé dans tout ce qu'on vient de se dire, là, c'est un mot, c'est le dialogue. On est beaucoup dans la confrontation, on est beaucoup campé dans des positions idéologiques. Puis tout le monde, là, puis on en a parlé souvent, là, les réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho. À un moment donné, tu deviens plus habitué d'être confronté à des points de vue qui sont différents. On tire un peu la pipe de Mathieu Bock côté. Là. Ceci dit, ne pas être d'accord, c'est très, très sain. Quand tout le monde est d'accord, c'est un peu plat.
Voilà.
Puis on s'en va nulle part. La liberté, merci beaucoup. Bon week-end à toi.
Bon week-end à toi aussi, bye.